Alors, je vais appeler, comme vous l'avez vu sur le programme, nous allons nous donner un temps de débat vers 12h30, plutôt 13h. Et je vais donc appeler maintenant Grégory Pirmet, qui va nous parler de Federico Garcia Lorca, le poète assassiné, deux points entre mythe et histoire. Alors, je suis d'autant plus heureux d'accueillir ici Grégory tout à l'heure, Quintin, que ce sont deux étudiants qui sont inscrits. Alors, Grégory est inscrit actuellement en thèse sous la direction de Pilar Martinez-Vasseur, avec un titre qui porte sur, je cite, « La non-intervention de la France pendant la guerre civile espagnole ». Je vais donc laisser la parole à Grégory, puis j'appellerai tout à l'heure Quentin pour l'autre intervention sur les relations culturelles, humaines et artistiques entre Buñuel, Lorca et Dali. Donc Grégory, nous vous écoutons.
D'abord, je souhaitais remercier les quatre organisateurs de ce colloque de nous avoir donné l'opportunité à Quentin et moi de faire cette communication qui ne sera pas facile forcément, mais bon, on va essayer quand même.
Il y a une première fois.
Oui, il faut bien une première fois.
Parce qu'on est avec vous.
Ouais, c'est gentil, voilà. Ça reste un peu. Donc je vais vous parler moi de Federico Garcia Lorca, le poète assassiné. Donc je vais faire ça en trois parties. La première partie qui va concerner décrire ce que l'on sait des derniers jours de Lorca. Une deuxième partie qui sera plus basée sur les raisons invoquées par les franquistes concernant sa mort et ses critiques. Et enfin, une troisième partie qui abordera plus montrer que c'est une affaire qui est toujours actuelle. Et encore, il y a quelques points, mais je vais préciser tout ça. Donc tout d'abord, je vais commencer par dire ce que l'on sait des derniers jours de Lorca. Donc le 19 août 1936, un mois après le coup d'État qui allait plonger l'Espagne dans 3 ans de guerre civile, le poète Federico Garcia Lorca aurait été fusillé aux abords de Fuente Grande par des soldats du camp insurgé en compagnie d'un instituteur et de deux militants anarchistes. Les quatre hommes auraient été enterré, et là je cite le fossoyeur qui était un communiste de 17 ans, dans une étroite tranchée, les uns sur les autres, au pied d'un olivier. Donc une exécution qui suivait quelques jours tumultueux pour le poète, qui était de retour à Grenade. Donc nous nous baserons ici sur la biographie de Ian Gibson, également sur un rapport de la police franquiste datant de 1965. Donc, beaucoup d'hypothèses ont été émises quant au dernier jour de Lorca, mais la question est de savoir si l'on saura un jour la véracité historique. Donc le 14 juillet 1936, toute la presse locale annonçait le retour de Lorca à Grenade, une ville dans laquelle les affrontements entre syndicats et membres de la phalange s'accentuaient. Les conspirateurs du coup d'État contre la Seconde République était donc au courant de l'arrivée du poète à Grenade. Le 17 juillet, donc 3 jours après, Franco annonça le début du mouvement national au Maroc espagnol. En Andalousie, le général Queipo de Llano rejoignit le camp insurgé et prit le commandement des troupes depuis Séville. À Grenade, César Torres Martinez, récemment nommé gouverneur civil, décida lui de rester fidèle aux ordres du gouvernement républicain et refusa de fournir des armes au peuple sans l'aval du Premier ministre. Alors ça s'explique par le fait que le gouvernement souhaitait, donc le gouvernement républicain souhaitait dans un premier temps trouver un compromis avec les insurgés dans la légalité. Un compromis qui a été refusé catégoriquement par Franco. Donc tous ces événements-là, Franco les suivit grâce au maire de Grenade, Manuel Fernández Montesinos, qui était le mari de sa sœur Concha. Le 20 juillet, les insurgés débutèrent la prise de Grenade. Le gouverneur militaire Miguel Campins Aula, qui était un africaniste proche de Franco, mais resté fidèle à la République, fut arrêté, tout comme le gouverneur civil Torres Martinez. Donc la ville fut occupée le 23 juillet, donc 3 jours après le début des opérations. Il y a eu 3 jours de résistance, notamment dans le quartier de l'Albaïcine. S'ensuivit dans cette enclave, Grenade était vraiment une enclave rebelle située dans une zone contrôlée encore par les républicains, l'instauration, et je cite Gibson, du règne de la terreur. Donc c'est torture, exécution et massacre collectif. Une situation qui effrayait la famille Lorca, qui était notamment préoccupée par le sort réservé par les insurgés à Fernandez Montesinos, donc le maire de Grenade. Le 6 août, la menace approchait. Un groupe de phalangistes fouilla la Huerta de San Vicente, où se trouvait Lorca, pour y trouver, selon les rumeurs, une radio clandestine avec laquelle Lorca, considéré comme un rouge, aurait transmis des informations aux soviétiques. Donc, les recherches ne menèrent à rien de concret. 3 jours plus tard, un autre groupe vint à la Huerta pour, cette fois-ci, arrêter les frères du gardien Gabriel Perea, donc, les frères qui étaient accusés de meurtre. Donc Perea fut attaché à un cerisier et torturé. Et c'est là que Lorca décida de s'interposer, mais il fut cloué au sol et frappé à son tour. Donc Perea fut emmené par ce groupe et Lorca fut assigné à résidence. Donc c'est un épisode qui marqua quand même le poète qui se sentait menacé, et il décida par conséquent d'aller se réfugier chez son ami poète Luis Rosales, où il pensait trouver la sécurité. Alors pourquoi ? Puisque les deux frères de Luis, donc son ami poète, José et Antonio, étaient tous deux des phalangistes importants de Grenade. Donc pour lui, il pensait trouver une certaine sécurité. Pourtant, l'endroit semblait être un train piège, puisque la demeure de Rosales se situait à 300 mètres seulement du gouvernement civil, depuis lequel le commandant Valdés Guzmán organisait la répression contre ce qu'il appelait les Rouges. Pour Luis Rosales, il s'agissait aussi d'un grand risque, l'hébergement des Rouges étant interdit, et d'ailleurs il écopera d'une lourde amende. Donc 7 jours plus tard, le 16 août, le maire Fernandez Montesinos fut fusillé. Donc imaginez Lorca effondré, qui dans la demeure des Rosales se sent de plus en plus menacé. Donc des craintes qui étaient fondées, puisque la veille, un groupe de miliciens avait surgi à la Huerta de San Vicente avec un mandat d'arrêt contre Lorca. Et donc les Rosales, eux aussi, sentaient que le poète n'était plus en sécurité chez eux. Mais ils furent pris de vitesse, puisque le poète avait été dénoncé. Donc, dans l'après-midi du 16 août, Lorca fut arrêté par Ramón Ruiz Alonso, ancien député de la CEDA. Donc la CEDA, c'est la Confédération Espagnole des Droits Autonomes, donc un parti fondé en 1933 par José María Gil Robles y Ángel Herrera Oria, un parti qui fut dissous par Franco en avril 1937. Donc Lorca fut arrêté par Ruiz Alonso sous prétexte que le poète, et là je cite Ruiz Alonso, était un espion russe. Donc, Lorca fut emmené et enfermé dans une pièce du premier étage du gouvernement civil, donc située à 300 mètres de la demeure de Rosales. Luis et José Rosales, donc les deux phalangistes, eux ont protesté, mais ça ne changea rien du tout. Leurs protestations permirent seulement d'avoir l'assurance qu'il n'arrive rien à Lorca, le temps que Valdés Guzmán vérifie les accusations contre lui. Le 17 août, donc le lendemain, alors que José Rosales vient au gouvernement civil avec une autorisation de sortie pour Lorca, Valdés Guzmán lui déclare que le poète avait été transféré autre part. Mais selon les recherches de Gibson, Valdés Guzmán aurait menti. Donc selon lui, la décision concernant le poète a été prise par de plus hautes autorités, et je vais le citer. Sans doute le gouverneur rebelle a-t-il réfléchi à deux fois avant de donner l'ordre de fusiller un personnage aussi célèbre. Certes, il le détestait, ainsi que tout ce qu'il représentait, mais peut-être craignait-il que cette exécution ne desserve la cause nationaliste. Tout porte à croire qu'avant de prendre la décision suprême, il consulta le général Queipo de Llano, commandant suprême des nationalistes en Andalousie, afin d'avoir son avis. Selon une source digne de foi, le général aurait répondu qu'il fallait donner au poète, je cite, du café, beaucoup de café, la formule qu'il utilisait toujours pour recommander une exécution. Que Queipo de Llano ait été contacté ou non, Valdés porte une large responsabilité dans la mort du poète. Donc, concrètement, Valdés aurait sûrement pu épargner Lorca, mais pour lui, il n'était qu'un communiste. Donc le matin du 18 août 1936, Lorca fut conduit à son lieu d'exécution, vers Alfacar, au nord-est de Grenade. Lorca passa ses dernières heures à la Colonia, où il demanda à se confesser. En l'absence du curé, Lorca se confessa à Tripaldi, après quoi le poète se serait senti soulagé, donc selon Tripaldi. Le lendemain, donc à l'aube du 19 août, Lorca aurait été exécuté à côté de Fuente Grande. Cependant, nous ne disposons pas de compte-rendu fiable aujourd'hui, mais seulement de quelques témoignages. Lorca n'aurait pas été tué du premier coup, et Juan Luis Tres Castro, qui était un complice de Luis Alonso, qui avait donc arrêté Lorca, aurait déclaré avoir, et là je cite, tiré deux balles dans le cul à ce PD. Voilà. Après la guerre civile, la famille du poète aurait demandé aux autorités franquistes de faire figurer Lorca sur le registre d'état civil, ce qui fut chose faite l'année suivante dans un document où est précisé que le poète était mort, et là je cite le document, au mois d'août 1936, de blessures de guerre. Donc une mort passée comme ayant été accidentelle par les autorités franquistes. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'on sait sur les derniers jours de Lorca. Maintenant je vais passer à la deuxième partie qui va concerner les raisons invoquées par les franquistes. Donc pour comprendre toute l'animosité de la droite envers Lorca, on peut revenir sur les explications données par Luis Alonso à Doña Rosales le jour de l'arrestation du poète. Donc Alonso a déclaré que le poète était un espion russe et qu'il avait fait plus de dégâts avec sa plume que d'autres avec un pistolet. Donc Lorca semblait symboliser à lui seul tous les maux que condamnait la droite conservatrice et catholique. Donc il était tout d'abord considéré par ses opposants comme un rouge. On lui devait cette réputation notamment pour ses propos antifascistes dans la presse espagnole, à une époque durant laquelle le fascisme renversait la plupart des démocraties européennes. Donc là je reviens un peu sur ce qu'a dit M. Casanova. Donc né de la Première Guerre mondiale, le fascisme s'était imposé en Italie à partir de 1922 avec Mussolini, et en Allemagne à partir de 1933 avec Hitler. Donc les idées fascistes gagnèrent aussi le sol espagnol, où José Antonio Primo de Rivera, donc fils de l'ancien dictateur, avait formé la phalange espagnole. Donc dans ce contexte-là, Lorca s'engage dans la lutte contre le fascisme, notamment par son adhésion en 1933 à la nouvelle association des Amis de l'Union soviétique, ce qui ne signifie pas pour autant que le poète était membre du Parti communiste, il ne l'était pas. Mais après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et le glissement vers la droite aux élections espagnoles de novembre 1933, Lorca prit conscience de cette menace fasciste à la fois en Europe et en Espagne. Soucieux de préserver la démocratie, il fut un des signataires d'un manifeste antifasciste à l'été 1935. Donc au même titre que Rafael Alberti et que sa femme Maria Teresa León, le poète décida de soutenir la coalition du Frente Popular. Donc, Lorca se sentait idéologiquement proche des républicains espagnols, sans qu'il n'adhère pour autant directement à un parti politique. Donc on va revenir à la fin de l'été 1931, alors que la Seconde République n'avait que quelques mois. Lorca, dans un discours d'inauguration de la bibliothèque de Santander, avait déjà fait part de son soutien à cette république qui devait permettre le développement de la culture. De plus, on le savait proche de Fernando de los Ríos, donc ministre de l'éducation sous la Seconde République, depuis que ce dernier avait été le professeur de Lorca à l'Université de Grenade. Donc cette collaboration universitaire avait débouché sur une forte amitié entre les deux hommes, mais également sur une affinité politique. Tous deux étaient en effet en faveur d'une république non révolutionnaire et axée sur la culture. Donc une amitié interprété par, tout autrement par les phalangistes qui surnommaient Lorca, cite, secrétaire de Fernando de los Ríos. Donc un surnom qui n'a aucun fondement historique. Néanmoins, en 2015, la Cadena Ser publia un rapport de la police franquiste datant de 1965 prouvant cette image de rouge. Donc on peut le voir ici, enfin, en tout cas une partie, pas forcément facile à lire, mais bon, on fera avec, je vais vous inquiéter pas. Selon ce document des autorités franquistes, bien que Lorca ait été, je le cite, sans activité connue, le poète était considéré comme un socialiste. Par sa proximité avec de los Ríos, ainsi qu'avec d'autres hommes politiques aux sensibilités politiques similaires. Donc le même document indiquait que Lorca était qualifié, je cite, de pratique homosexuelle, aberration qui devint vox populi. Donc l'homosexualité du poète n'était évidemment pas acceptée dans les milieux conservateurs et catholiques. Lorca était à la fois méprisé et raillé. Une attitude que l'on peut apercevoir notamment lors de l'épisode avec le gardien Pereira, durant lequel Lorca fut frappé. Donc un des phalangistes du groupe reconnut le poète et aurait déclaré, je cite, « Mais c'est le petit PD, le petit ami de Fernando de los Ríos ». Donc ouais, vous voyez, on voit bien que la proximité entre le ministre et le poète créait de nombreuses rumeurs essentiellement infondées. Il existait également une collaboration indirecte entre les deux hommes au cours de la Seconde République. Donc en mai 1931, le gouvernement provisoire de la République avait mis en place des missions pédagogiques ayant pour but de diffuser la culture et les valeurs de la République dans toute l'Espagne. Des idées que partageait Lorca, soucieux d'apporter la culture dans les campagnes espagnoles. C'est ainsi que la compagnie de théâtre universitaire La Baraca vit le jour, avec Lorca comme directeur artistique. Donc une compagnie qui faisait polémique dans les rangs de la droite espagnole, puisqu'elle était subventionnée à la hauteur de 150 000 pesetas par an, donc une somme qui était considérable pour l'époque. Et de plus, cette subvention-là était octroyée par le ministère de l'Éducation, dirigé par Fernando de los Ríos. Donc on parle là de la baraca de Don Fernando. Pour l'extrême droite, la troupe diffusait un message de propagande marxiste. Donc les attaques furent violentes durant les années républicaines, et plus particulièrement au cours des années 1934-1935, comme le soulignait Ian Gibson, et là je le cite de nouveau. Depuis sa victoire aux élections de novembre 1933, la droite a encore accentué ses attaques contre la baraca. Pendant l'absence de Lorca, parti à Buenos Aires, un périodique d'extrême droite particulièrement virulent a déjà déploré que le budget de l'État fût gaspillé pour entretenir une troupe d'étudiants homosexuels. C'est à présent au tour du FEE, l'organisme du parti phalangiste, d'accuser les baracos de pervertir les paysans en étalant devant eux, et cite, des coutumes corrompues et inspirées de l'étranger et des promiscuités scandaleuses. Il leur reproche de dilapider les deniers publics et d'obéir aux préceptes du marxisme juif. Amour libre et communiste. L'article est révélateur des haines et soupçons qui déchirent l'Espagne. Outre sa collaboration à la Baraca en tant que directeur artistique, Lorca scandalisa la droite par ses œuvres, et notamment la pièce de théâtre Yelma, publiée en 1934. Donc pour Gibson, l'œuvre est un rejet implicite mais manifeste du rigide catholicisme espagnol, et également un rejet de ce machisme qui relègue les femmes au rang de créatures inférieures. Dès ses débuts, la pièce fit polémique dans les milieux catholiques. Si pour la presse progressiste, Yelma était un chef-d'œuvre, en revanche pour la presse de droite, c'était un scandale, et il désignait l'œuvre comme étant immorale, antipatriotique et antireligieuse. Donc socialiste par sa proximité avec Fernando de los Ríos, antireligieux par ses œuvres, Lorca a été également considéré par des insurgés comme un franc-maçon. Preuve en est avec le rapport franquiste de 1965 qui justifiait la mort du poète ordonnée par les plus hautes instances du camp rebelle. Je cite le rapport. Figura como masón perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero. Il est vrai que la franc-maçonnerie était un des ennemis que combattait le camp insurgé. au même titre que le communisme ou l'athéisme. Donc pour Raoul Girardet, auteur de Mythes et mythologies politiques, la franc-maçonnerie était considérée par ses détracteurs comme, je le cite, une organisation occulte. Donc par son engagement dans la loge Alhambra, Lorca passait dans le domaine du secret, par lequel débouchait souvent l'image de la conspiration. Donc les insurgés opposants à la franc-maçonnerie semblaient prendre le rôle des forces du bien contre les forces du mal, celui du Christ face à l'antéchrist. Ce qui explique la volonté des futures autorités franquistes d'éradiquer tous ceux qui étaient perçus comme des anti-Espagne, selon la formule de Franco. Donc si on suit ce raisonnement, Lorca, comme potentiel membre maçonnique, représentait donc cette anti-Espagne. Par son engagement idéologique indirect en faveur de la République et par sa collaboration culturelle au régime, Lorca s'attirait donc les foudres des membres de la phalange. Ses déclarations étaient assimilées par la droite comme celles d'un socialiste. Il était par conséquent considéré au même titre que deux des bêtes noires de l'extrême droite espagnole, Fernando de los Ríos et Manuel Azaña, qui était président de la République, considéré comme un rouge. Il était accusé de pratiques homosexuelles et de faire partie d'une loge maçonnique. Aux yeux des insurgés, il fallait s'en débarrasser. Et il fut une des victimes célèbres de la période du Terror Caliente que décrivait Julian Casanova. Donc étape d'extrême violence durant les trois premiers mois de la guerre civile espagnole, où de nombreuses personnes furent fusillées et jetées dans des fosses communes, et personnes non enregistrées. Donc à la fois dans les territoires contrôlés par les rebelles et ceux conservés par la République. Donc une étape qui avait fait de très nombreuses victimes et durant laquelle toute personne a été potentiellement en danger de mort. Donc voilà les raisons invoquées par le franquisme. Maintenant je vais passer à la troisième partie qui concerne donc une affaire, cette affaire qui traverse finalement l'histoire. Donc depuis 1936, la mort de Lorca reste un sujet énigmatique. Aujourd'hui encore, 80 ans après, nous ne disposons pas de preuves totalement fiables expliquant les circonstances réelles de sa mort, ni le lieu de sa dépouille. La question de savoir si on le saura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après la note informative de 1965, la mort de Lorca se devait à un ordre du gouvernement civil de Grenade. De plus, depuis 1936, le sort de Lorca n'a jamais laissé insensible. Donc, notamment trois semaines après sa probable mort, la presse républicaine relayait les bruits selon lesquels le poète aurait été assassiné. Donc, les témoignages de personnes ayant pu s'échapper de la zone contrôlée par les rebelles permirent d'avoir la certitude de sa mort. Un télégramme fut envoyé par un club de Londres aux autorités rebelles qui répondirent qu'ils ignoraient où était le poète. Il s'agissait ici d'une manière d'étouffer l'affaire. Lorca était devenu un martyr pour le camp républicain. Donc le camp insurgé devait absolument empêcher la fuite d'informations afin que le lieu de la mort de Lorca ne se transforme pas en un lieu de pèlerinage pour les républicains. Dans les années 60, une journaliste et écrivaine française, Marcel Auclair, contacta les autorités franquistes pour ouvrir les archives concernant la mort de Lorca afin d'écrire une biographie. Donc la réponse fut négative. Donc, cette preuve-là du contact entre Marcel Auclair et l'autorité franquiste, on peut le voir sur une lettre ici entre Fernando María Castilla, qui était ministre des Affaires étrangères, et Camilo Alonso Vega, ministre de Gobernación, donc ancien intitulé pour désigner le ministre de l'Intérieur, donc sur la possibilité justement d'ouvrir ces archives. Donc la réponse fut négative. Donc Marcel Auclair ne reçut rien puisque le rapport datant de 1965, ce rapport-là, était préjudiciable pour le régime franquiste, même s'il émanait de son sein. Donc l'écrivaine française réussit tout de même à publier une biographie en 1968. Enfance et mort de García Lorca. C'est après la dictature franquiste que davantage de recherches furent effectuées. Donc on a la biographie qui faisait figure de proue, celle du Britannique Ian Gibson, publiée en 1990. On peut aussi citer l'œuvre un peu plus récente de Miguel Caballero Pérez, datant de 2011. Ces dernières années, de nombreuses fouilles ont été effectuées afin de découvrir les secrets de la mort de Lorca et notamment le lieu de sa dépouille. Les dernières fouilles qui datent de novembre 2014 et de septembre de cette année. Entre-temps, il y a eu le rapport de la Cadena Ser, donc 50 ans après sa rédaction. Mais les fouilles n'ont pu apporter plus de certitude, alors que ce document est quand même un document important. Néanmoins, c'est un rapport officiel du régime franquiste qui laisse quelques zones d'ombre. Tout d'abord, nous ne savons pas qui est l'auteur exact de cette note, seulement qu'il émane de la Jefatura Superior de Policía. Hein. Donc ce document, provenant du régime franquiste, est donc à prendre avec précaution. La mort de Lorca reste donc énigmatique et entrevoit encore plusieurs zones d'ombre 80 ans après la mort du poète grenadin. Merci.
Merci beaucoup Grégory pour cette excellente et très intéressante et passionnante exposé un rappel historique très précis donc sur la mort de Lorca.